Livre des Proverbes, au chapitre 1er, une petite introduction à notre message et aussi un rappel. La crainte de l'Éternel, Proverbe chapitre 1er, verset 7, à partir du verset 7, la crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Écoute, mon fils, l'instruction de ton père et ne rejette pas l'enseignement de ta mère, car c'est une couronne de grâce pour la tête et une parure pour ton cou. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs comme le séjour des morts et tout entiers comme ceux qui descendent à la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier. Je recommence le verset 7. La crainte de l'Éternel est le commencement de la science. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Les insensés préfèrent la puissance et les apparences. Les insensés préfèrent la force et l'argent. Mais les humbles choisissent la sagesse. La sagesse est une grande richesse. La sagesse, c'est la capacité, la connaissance d'agir au bon moment, au bon endroit. Dieu te donne la manière, la façon d'agir au bon moment, au bon endroit. La sagesse, c'est comme un cultivateur qui sème, qui semble perdre son temps, mais un jour il récoltera. C'est ça la sagesse. Mais les insensés préfèrent les armes. Ils préfèrent des moyens visibles. C'est ça qui fait leur force. Mais ces moyens visibles finissent par devenir leur défaite. Lorsqu'on on regarde certains matchs de football, nous voyons des gens qui au début sont très contents. Ou bien à la 75e minute, ils sont très contents. Mais à la 90e minute, à la 88e minute, vous voyez des gens hyper tristes. Avoir des apparences, des mimiques de personnes qui viennent de perdre un enfant ou bien de perdre un parent, tellement le score leur est défavorable. C'est ainsi que ça se passe dans le monde. On n'est pas sûr du score. On vient avec entrain, avec volontarisme, mais on n'est pas sûr du score. Et on pleure souvent qu'on s'est réjoui. Dans le monde, c'est lorsque A gagne, et B perd. Donc A va gagner lorsque B perd. Avec le pari mutuel. Avec la bourse, c'est toujours ça. Il y a un qui gagne, un qui perd. Il n'y a pas la vraie joie. Mais avec Jésus, quand vous êtes saints, les saints qui se confient en lui vont gagner. Ils n'ont pas besoin que l'un d'eux perde. Tous peuvent gagner en même temps. Mais dans le monde, on ne peut pas gagner en même temps. Il faut que quelqu'un perde pour que l'autre gagne. Jésus est la solution, bien-aimé. Lui nous donne une disposition, une situation qui fait que tout le monde peut gagner. Tu n'as pas besoin de l'échec de l'autre pour que toi tu gagnes. Acceptons la sagesse de Dieu. Beaucoup de chrétiens meurent dans leur foi par manque de sagesse. Beaucoup de serviteurs de Dieu Ils ont choisi la puissance, ils ont choisi l'influence humaine, ils ont négligé les instructions du Seigneur. Beaucoup de chrétiens ont choisi la force physique, ils ont choisi la force de leur intelligence, mais ils ont négligé les instructions du Seigneur et ils meurent dans leur foi. Parce qu'aucun homme, aussi intelligent soit-il, peut être par son intelligence propre plus intelligent que le diable. Non. Le diable est plus intelligent et plus, a plus de connaissances que tout humain. Mais quand nous avons le Saint-Esprit avec nous, le Saint-Esprit, lui, il est plus fort, infiniment plus fort que le diable. Et le Saint-Esprit, comment il agit? Il nous donne des instructions. Il nous donne sa sagesse. À partir de cette sagesse, nous pouvons vaincre le diable. À partir de cette sagesse, nous pouvons rendre les autres heureux et tenir jusqu'au bout. Et une des grandes sagesses que le Seigneur nous a léguées se trouve dans Jean 13. Nous prenons Jean 13. Jean 13, à partir du verset 1er. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se saignit. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont il était saint. Il vint donc à Simon-Pierre et Pierre lui dit, « Toi, Seigneur, tu me laves les pieds. » Jésus lui répondit, « Ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu le comprendras bientôt. » Pierre lui dit, « Non, jamais tu ne me laveras les pieds. » Jésus lui répondit, « Si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains et la tête. » Jésus lui dit, « Celui qui est baigné n'a besoin que de se laver les pieds pour être entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. » Car il connaissait celui qui allait le livrer. C'est pourquoi il dit, « Vous n'êtes pas tous purs. » Alors qu'il leur eut lavé les pieds et qu'il eut pris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, « Comprenez-vous ce que je vous ai fait ? Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Ce n'est pas de vous tous que je parle, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi, le pain a levé son talon contre moi. Dès à présent, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez ce que je suis. En vérité, je vous le dis, celui qui reçoit celui que j'aurai envoyé me reçoit, et celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Voilà, le Seigneur, avant de s'en aller, il va laisser un grand héritage aux disciples. Un très très grand héritage. Et pour montrer que c'était très important, il est écrit que Jésus, en ce moment-là, a aimé ses disciples au maximum. Donc, au verset 1er, il les a aimés au maximum. Il a pris un linge, il a commencé à laver les pieds de ses disciples. Premièrement, c'était ses disciples. Deuxièmement, même si ce n'était pas ses disciples, laver les pieds était une tâche réservée aux esclaves. À l'époque, lorsque les gens arrivaient dans une maison, ils avaient les pieds sales. Et vous savez qu'à l'époque, ce n'était pas des routes goudronnées comme les nôtres, avec de beaux trottoirs. C'était la terre, c'était on marchait en compagnie, à côté des animaux, les ânes, les chevaux, et on pouvait marcher sur les excréments. En tout cas, les pieds étaient sales. De sorte que quand quelqu'un venait vous accueillir quelqu'un, vous aviez un ou deux esclaves qui s'occupaient de laver les pieds de vos invités. Non seulement laver les pieds, c'est rabaissant, donc c'était la tâche des esclaves, mais c'est Jésus qui le fait. Il dit, vous m'appelez maître et vous ne vous trompez pas, c'est vrai, je suis le maître. C'est la vérité, je suis le Fils de Dieu. D'ailleurs, c'est écrit, hein. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour. Verset 3. Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, bien-aimé. Donc c'est bien dit. Jésus est conscient de qui il est. Il savait que c'était lui le chef. Tout a été remis entre ses mains et qu'il était de Dieu, qu'il était le Fils de Dieu, qu'il était Dieu. Mais il prit un linge, il fait le boulot des esclaves. Il lave les pieds de ses disciples. Alors, il y a un disciple qui trouve ça anormal et il avait raison. C'était anormal. Comment le maître va laver les pieds de ses disciples? Et il a voulu refuser. Jésus lui a dit, mon cher, vous pouvez tout faire, mais surtout pas refuser ça. Parce que c'est empêcher que je transmette ce que je veux transmettre. C'est rare de voir Jésus menacé. Lisez les évangiles. Jésus, on a l'impression qu'il est trop gentil avec ses disciples. Il ne les a jamais menacés. Même ceux qui l'ont trahi, même ceux qui l'ont fui, il ne les a jamais menacés. Mais là, il menace Pierre. Un des disciples bien-aimés, il le menace. Il dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, entre toi et moi, c'est fini. Alors, pourquoi Jésus veut-il insister pour laver les pieds? Il dit, même si je ne te lave pas les pieds, entre toi et moi, c'est fini. Il veut faire comprendre que c'est le message le plus important. Un des messages les plus importants que je vous laisse, c'est laver les pieds des autres. En quelque sorte, servir. Nous allons parler de la position du serviteur. Le Seigneur veut qu'on adopte une position de serviteur. Il dit, si vous êtes de moi, vous devez le faire aux autres. Non seulement les servir, mais les servir même quand ils ne le méritent pas. Parce que les disciples ne méritaient pas que Jésus leur lave les pieds. Ils ne les méritaient pas. Non seulement servir, mais servir en se rabaissant. Jésus a fait le boulot d'un esclave. Il faut prendre la posture du serviteur. Dans ce monde, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Beaucoup de chrétiens ne vont pas jusqu'au bout. Faites, bien-aimés, le bilan des chrétiens que vous connaissez ou que vous avez connus. Si vous êtes converti depuis 15 ans, tranquillement chez vous, faites le bilan. Vous allez voir que beaucoup se sont fait baptiser, beaucoup se sont convertis, beaucoup se sont avancés, ont sympathisé avec Dieu, mais il n'y a que peu. Ils sont restés avec le Seigneur. Lorsqu'on néglige les enseignements du Seigneur, comme on a lu dans Proverbe au début, quelqu'un qui néglige l'enseignement de Dieu se livre au diable lui-même. Quelqu'un qui néglige la sagesse que Dieu veut donner, il se livre au diable. Jésus-Christ en est arrivé à menacer Pierre. Il dit, Pierre, si je ne te lave pas les pieds, C'est fini entre toi et moi. Donc si tu ne comprends pas cet enseignement, tu auras des problèmes. Bien-aimé, si nous ne comprenons pas cet enseignement, nous aurons des problèmes. La position des serviteurs, ça tue lorsqu'on n'a pas compris cet enseignement. Les mariages meurent à cause de ça. Les sociétés ne fonctionnent pas bien à cause de ça. Les gens ne veulent pas être serviteurs, ils veulent être patrons. Je me souviens même quand j'étais dans le monde, il y avait une chanson du monde qui disait que tout le monde veut être patron. Mais c'est vrai, tout le monde veut être patron. Personne ne veut servir, personne ne veut laver les pieds, personne ne veut se rabaisser en servant. Alors que le Seigneur s'est rabaissé jusqu'à la mort à la croix. Pour nous servir, alors que nous, nous étions ses ennemis, mais il nous a servi. Jusqu'au bout, bien-aimés. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Ah, il a oublié mon anniversaire. Oh. Qu'est-ce qu'on n'entend pas? Il a oublié nos 25 ans de mariage. Et les gens se divisent comme ça. Ah, il ne m'a pas salué. Il a souri à tout le monde sauf à moi. Qu'est-ce qu'on entend? Il n'y a pas l'amour. Oh, les patrons. Les patrons réclament toujours. Comme j'ai appris que le président de la FIFA, il a réclamé des crèmes glacées avec l'eau des viandes seulement. Pas une autre eau. Je ne sais pas comment il peut faire la différence dans une crème glacée entre l'eau des viandes et l'eau de Sidi Ali du Maroc. Je ne sais pas, mais... Il a réclamé l'eau de viande dans la crème glacée. Donc les patrons, eux, ne font que réclamer. Ah, il m'a mal regardé. Oh. Il ne m'a pas salué. Je ne me sens pas à l'aise avec eux. Ça, c'est les patrons. La chemise est mal repassée, les patrons. Les patrons ne font que revendiquer. On ne m'a pas souhaité bon anniversaire. Oh, les patrons, bien-aimés, c'est ça qui casse la société. Et il y a des pasteurs qui sont là. Bon, j'ai fait 10 ans de souffrance, d'intercession, de jeûne. Petit, maintenant c'est mon temps de me reposer. Je vais manger les fruits. Oh, depuis quand? C'est Jésus-Christ qui doit manger les fruits. Nous, on est serviteurs jusqu'au bout. Nous devons servir. Position des serviteurs, ça tue les relations. Parce que les gens s'attendent seulement qu'on s'occupe d'eux. Pour être heureux dans ce monde, pense seulement à t'occuper des autres. Jamais tu ne seras en difficulté. Jamais tu ne te plaindras. Bien-aimés, adoptons la position des serviteurs. C'est ça qui va faire qu'on ne peut pas nous rabaisser plus que cela. Tant qu'on a la position de patron, on aura toujours des difficultés et on sera toujours insatisfait. On va demander une main, on nous donne une main, on va demander le bras. Le bras, non, ça sera tout le corps. Et ainsi de suite. Tu demandes un mètre, tu vas demander un mètre, on te donne un mètre, non, je veux un kilomètre. Ça sera jusqu'au bout, on ne sera jamais satisfait. Il faut penser à servir. Le Seigneur a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et au milieu de nous, chacun veut à tout prix être servi. Ah, je mérite tel poste. Bien-aimé, sois serviteur. Un point, c'est tout. Et quand on dit serviteur, accepte de laver les pieds. Et il y en a qui ont pris ça comme une formule. Bon, je commence à travailler dans l'église. En attendant, je commence au ménage. Oh, pourquoi en attendant? En attendant, je veux commencer à l'accueil. En attendant quoi? Sûrement en attendant pour prêcher. Ah, on l'a eu. C'est les patrons. Donc, il n'a pas le cœur de servir. Son cœur est au micro, mais il dit, bon, pour faire, on appelle ça diversion en guerre, pour faire diversion, je vais essayer de m'humilier dans le ménage. En attendant, pourquoi en attendant? Si tu es dans le ménage, reste là-bas. Jésus n'a pas dit qu'il faut laver les pieds en attendant. Il faut laver les pieds, c'est tout. Maintenant, un jour, le maître va te prendre, te sortir de là. Il va dire, ça suffit comme ça. Tu as trop. Maintenant, tu es arrivé à l'étape de prêcher la parole de Dieu. On a besoin de toi là-bas. Mais ce n'est pas que laver les pieds, c'est rabaissant. Non! Puisque nous servons qui? Le seul maître. Celui qui prêche, celui qui est pasteur, celui qui lave la salle, ils servent Jésus, ils ne servent pas quelqu'un d'autre. Ils servent Jésus en faisant cela. Donc il n'y a pas de premier. Tous sont serviteurs de Dieu. Mais il y a certains postes qui poussent à prendre une sorte de costume de patron. Et d'autres qui ne poussent pas à cela. Et aux yeux des humains, les postes qui semblent donner une posture de patron sont beaucoup plus valeureux que les postes qui ne donnent pas cette posture. C'est faux! Aux yeux de Dieu, c'est pareil. Et le Seigneur veut nous attirer sur la logique d'être serviteur. Que tu aies un poste d'autorité ou pas, sois serviteur. C'est ça, bien-aimé. Nous lisons dans Luc au chapitre 22. Dans Luc au chapitre 22, à partir du verset 24, il s'éleva aussi parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Jésus leur dit, les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Le Seigneur le dit, aux yeux des humains, qu'est-ce qui est le plus grand? Qui est le plus grand? C'est celui qui est à table. Qui est le plus grand? C'est celui qui a le titre de président, bienfaiteur, grand. Il dit, mais moi je suis au milieu de vous comme un simple serviteur, un esclave. Voilà quelle attitude adopter. Une attitude de serviteur. Un serviteur pense à quoi? À servir. Un patron pense à quoi? À être servi. Et vous allez voir que la plupart de nos problèmes tournent autour de ces deux éléments-là. Lorsqu'on est patron, on va commencer à accuser les autres. Si je n'ai pas bien prié, c'est parce qu'un tel a fait du bruit. Si je ne suis pas en bonne santé, parce qu'un tel a fait ceci. Donc nous allons devenir des juges. Le jugement vient de la position de patron. Tu es là. Tu attends. Combien de difficultés dans les familles à cause de la position des patrons. Et parfois, c'est des familles chrétiennes. Bien-aimés, je ne suis pas en train de dire qu'il faut encourager la paresse ou encourager le fait que certains ne remplissent pas leurs obligations. Mais attention. Toi, en tant que chrétien, n'attends rien. Pense seulement à donner. Pense seulement à servir. Et maintenant, Dieu pensera à toi. Il fera que ceux qui doivent préparer pour toi préparent. Ceux qui doivent s'occuper de tes chemises le fassent. Il fera que ceux qui doivent s'occuper de te sourire, le fasse. Mais toi, occupe-toi de sourire aux autres. Occupe-toi de mettre la joie chez les autres. Occupe-toi de mettre la paix avec les autres. Occupe-toi de mettre du bonheur au milieu des autres. Ne cherche pas ce qu'eux ils mettent chez toi. Parce que de toute façon, quoi qu'on fasse pour un homme, il est toujours insatisfait. Aujourd'hui, vous allez dire, vous allez expliquer peut-être à quelqu'un qui habite le Bangladesh ou un pays difficile d'Afrique. Vous lui dites nos conditions en France. Il va dire, mais c'est le paradis. Mais bien aimé, amenez-le ici. 4 ans après, vous allez le voir à la rue en train de faire la grève. Comme tous les autres Français. L'homme n'est jamais satisfait. Il a beau dire, bon, le jour où je suis en France, moi c'est fini, ma vie est réglée. Vous l'amenez ici en France, 3 ans après à la France, ce n'est pas bon. Moi je trouve que c'est le Canada qui, c'est un peu grand, et puis voilà, les appartements sont grands. Oh. Mais toi tu disais autrefois que c'était la France le terminus. Voilà, l'homme est toujours insatisfait. Donc quand quelqu'un est dans la position de patron, ça ne finira jamais. C'est pourquoi moi j'ai l'habitude de dire, les gens qui viennent chercher Dieu en patron, avec moi ils sont déçus, hein, parce que bon, moi je dis tranquillement, tu n'es rien du tout, c'est Dieu le patron. Oh non, il faut me flatter. Bon, moi je ne peux pas te flatter, parce que c'est toi qui dois chercher Dieu, c'est toi qui dois flatter Dieu, parce que qui Dieu, il a fait les cieux et la terre, il va flatter un humain comme toi, mais soyons sérieux. Bien-aimés, c'est Dieu le patron, et il y a des gens qui veulent faire le serviteur. Ah oui, mais pourquoi les guerres? Il pose même avec autorité. Moi, je dis, attends, quand tu vas subir la guerre, là, on t'entendra encore poser les questions, pourquoi les guerres en fouillant les bombes, bien-aimés. Il faut s'humilier devant Dieu. Dieu est celui qui a fait les cieux et la terre. Il faut adopter la position des serviteurs. Si nous voulons aller jusqu'au bout, vous savez, beaucoup de serviteurs de Dieu, entre autres, meurent spirituellement à cause de ça. À force qu'on les appelle pasteurs, à force qu'on les appelle anciens, et ils créent même des envies aux autres. Ils reçoivent des cadeaux, et les gens, il y en a qui ont envie d'être à cette place-là. Bien aimé, c'est une place de serviteurs. Il y en a qui ont transformé cette place en place de patrons, mais ce n'est pas une place de patrons, c'est une place de serviteurs. Et chaque service a ses avantages ou bien ses bénédictions. Mais c'est une place de serviteur comme toutes les autres places. Bien-aimé. Et lorsqu'on transforme une place de serviteur en patron, ça finit toujours mal. On commence à exiger de Dieu qu'il nous fasse des choses parce qu'on a fait 5 ans de fidélité avec lui, 10 ans de fidélité. On commence à exiger, on prend la place de patron et on finit mal. On commence à avoir des gardes du corps, faire ceci, faire cela, parce que on a pris une posture de patron. Le Seigneur veut qu'on prenne une posture de serviteur. On commence à réclamer des miracles, réclamer des bénédictions matérielles, parfois en utilisant la Bible. Mais Dieu a dit ceci, mais on le fait dans une logique de patron. Non, bien-aimé, il faut s'humilier devant le Seigneur. La logique des patrons empêche Dieu d'agir dans nos vies. La logique des patrons détruit les relations entre les autres, entre les humains. Nous devons adopter la logique des serviteurs. Mais il y en a qui me diront, mais quand tu vas faire ça dans ce monde, on va marcher sur toi. Non, on marchera sur toi pendant un temps. Ton Dieu te défendra. Mais il faut adopter cette logique. Jésus-Christ en a craché sur lui. Jésus-Christ a marché en portant une grosse croix. Jésus-Christ, on l'a injurié. Mais le 3e jour, il est ressuscité. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus, alors que ceux qui l'ont crucifié, on ne les connaît même pas. Jésus est vivant. Le Seigneur te défendra. Toi, sers les autres. Ah, ils vont exagérer si je fais le bon. Toi, fais le bon. Sers les autres. Ne t'occupe pas de toi. Dieu s'occupera de toi. Jésus-Christ a lavé les pieds des disciples. Quand tu as cette position-là, tu es tranquille parce que tu n'as pas de concurrent. Les gens aiment les positions où on va les servir. Là, tu auras plein de concurrents. Moi, je connais certains chrétiens, après 6 mois ou 1 an de conversion, ils pensent déjà être pasteur parce qu'il a l'impression que c'est ça le poste le plus valeureux. Donc, tu t'imagines le nombre de concurrents que tu as. Mais la personne qui lave les toilettes cherche les concurrents. Tu vas travailler pour trouver les concurrents de cette personne-là. C'est la belle position, la position des services. Maintenant, certains, quand ils s'approchent, ils se disent, oh, mais je croyais que pasteur, c'était seulement, c'était des honneurs. Ils se rendent compte des sacrifices, ils disent, ah non, bon, moi, je préfère rester. Donc, en réalité, ils ne voulaient pas servir. Ils voulaient prendre les honneurs. C'est ça, bien-aimé. Et ceux qui ne connaissent pas le côté service de pasteur ou apôtre ou je ne sais quel titre, eh bien, ils envient cela. Mais ceux qui connaissent le côté service, eh bien, ils ont peur. C'est ainsi que beaucoup envient les apôtres en disant, ils avaient vu Jésus. Mais bien aimés, ils ont vu Jésus, mais ils l'ont vu aussi crucifié. Hein. Vous vous imaginez, toi tu as abandonné ta famille. Pendant 3 ans, tu as suivi quelqu'un pensant que c'était fini, le royaume de Dieu va s'installer. Et puis on prend cette personne-là, on le crucifie devant toi et tu fuis même. Donc, vous vous imaginez quelle déception. Il y en a qui peuvent se suicider. Heureusement qu'à l'époque, le suicide, c'était pas courant. C'est pas comme à notre époque où c'est devenu comme une drogue. Imaginez suivre quelqu'un 3 ans, fonder tous tes espoirs d'aujourd'hui et d'avenir sur cette personne. Et des espoirs parfois justifiés parce qu'après cette personne fait des miracles, multiplie les pains, on veut l'arrêter, on n'arrive pas à l'arrêter. Et puis paf, d'un coup, on l'arrête. Jusqu'à le crucifier, ça fait très mal. Attention d'envier les positions sans connaître l'intérieur. Il faut juste vouloir servir Dieu. On n'a pas envié la position de quelqu'un parce que tu ne connais pas le côté service lié à cette position. Tu vois seulement un côté extérieur de certains avantages, mais tu ne vois pas l'intérieur, le côté service lié à cette position-là. Et tu crois que c'est une position de patron. Non, toute position avec le Seigneur, c'est une position de serviteur. Il y en a qui les ont transformés en position de patron, malheureusement. Et c'est très dangereux. Nous devons rester serviteurs. Il y en a qui en ont fait des positions d'honneur. C'est ce que Jésus dit. Les rois des nations les maîtrisent et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Il dit, ils maîtrisent, ils sont des chefs, on les appelle même bienfaiteurs. Mais vous soyez des serviteurs, c'est tout. C'est la plus belle position. Vous serez toujours en paix. Les patrons ne font que se plaindre. Mais vous, vous n'aurez pas à vous plaindre. Vous aurez plutôt à servir les autres. Même quand ils seront mécontents, c'est ce qui est extraordinaire. Hein? Jésus-Christ sauvait les gens qui étaient mécontents de lui. Mais lui, il continuait son boulot. Nous, on a l'habitude de dire, j'ai fait ceci, ils sont mécontents, j'arrête. Mais tu servais pour qui ? Tu servais pour le Seigneur ou bien pour les hommes? Si tu sers pour le Seigneur, même quand les gens sont mécontents, il faut continuer à les servir. Il faut continuer à les servir parce que tu le fais pour Dieu. Même quand les gens n'acceptent pas, ne reconnaissent pas ce que tu fais comme étant valable, continue à les servir. Même quand ils ne veulent pas te voir, continue à les servir en priant. Parce que toi, tu sers le Seigneur. En les servant, eux. Position de serviteur bien-aimé. Tu seras l'homme le plus heureux. Il n'y aura pas de guerre. Tu seras rempli d'amour, parce que ça ne peut pas aller sans l'amour. Rempli d'amour pour les autres. C'est vraiment agréable de regarder l'autre et d'être content. C'est très bien. Mais quand déjà, une heure avant de rencontrer quelqu'un, on calcule comment on va se mettre en colère, c'est un malaise. L'orgueil, ça sent mauvais. C'est pas agréable. L'amour, la bonté, c'est beau. C'est la douceur. Mais cependant, quand on est déjà égaré, l'orgueil, ça donne de la force. Mais cette force va mal finir. Mais quand on a la lumière de Dieu, la sagesse de Dieu, on sait que l'amour, c'est ça qui est bien, quoi. Parce que qu'est-ce que va faire l'amour? L'amour va faire que l'autre qui te détestait, l'autre qui ne t'aimait pas, va être touché par cet amour. Un an après, vous allez communier. Alors que l'orgueil, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire sortir l'orgueil qu'il y a aussi chez l'autre. Et vous allez aller de guerre en guerre jusqu'à une tragédie. Alors que l'amour au début, même quand on ne reçoit pas de réponse, mais il est en train de faire son effet. Il est en train de travailler. Deux ans après, un an après, il y a une production, il y a un arbre. Mais l'orgueil va détruire et te laisser aussi être détruit par l'autre. Ainsi de suite, l'orgueil produit l'orgueil et ça se combat jusqu'à une tragédie. C'est ça la réalité. Mais l'amour, c'est comme une sorte de chiffon. On te cogne, ça amortit. Et à force d'amortir, l'autre se fatigue. Il sent taper, il a l'impression qu'il tape dans le vide. À force de taper dans le vide, il se fatigue. Et il se décide à t'aimer aussi. C'est ça la puissance de l'amour. La position de serviteur, c'est important. Bien-aimé, ne nous lâchons point. Ne nous relâchons point. Continuons à servir les autres. Continuons à servir Dieu. Le Seigneur sera avec nous et il manifestera sa fidélité. Continuons, bien-aimés. Le Seigneur a dit, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Les gens qui n'ont pas de grandes prétentions. Les gens qui sont juste là pour dire, je fais le travail de Dieu. Qu'ils soient pasteurs, qu'ils soient chefs d'entreprise. Il dit, c'est l'entreprise du Seigneur. Je suis serviteur dans l'entreprise du Seigneur. Je suis pasteur dans l'église du Seigneur. C'est une position d'autorité. Nous ne refusons pas cela. Mais nous disons que cette autorité-là doit être pratiquée dans un esprit de service. C'est une autorité qu'on t'a donnée pour aider les autres, pour servir les autres, et non pas pour toi être reconnu comme un patron. Même si on va t'appeler patron, mais toi tu sais que tu es là pour que l'autre puisse vivre. Pour que l'autre puisse se retrouver dans cette société. Pour que l'autre puisse connaître Dieu. Quel que soit ton rôle, tu es là pour que l'autre puisse connaître Dieu, puisse connaître un certain bonheur. Parce que nous sommes des gens que Dieu a mis à part pour montrer son amour à l'humanité. Mais on n'est pas là pour se dire, je suis quelqu'un. Non. Lavons les pieds, bien-aimés. Même quand c'est déplaisant, lavons les pieds des autres. Même quand les gens nous ont fait trop de mal, continuons à les aimer. C'est la loi du Seigneur. C'est ça qui fera la différence. Même quand c'est vraiment injuste, continuons à les aimer et continuons à les aider. Combien de fois certains n'ont pas compris mes positions envers certaines personnes en disant, pasteur, mais il exagère. Moi, j'ai dit non. Le Seigneur Jésus veut ainsi. C'est la nature du Seigneur. Si nous sommes serviteurs de Dieu, c'est pour manifester la nature du Seigneur. Ce n'est pas pour utiliser les moyens du monde. C'est pour manifester la même nature que Jésus. On est des humains, parfois, nous ne manifestons pas cela. Mais nous voulons nous rattraper, nous repentir et manifester cette nature. C'est pourquoi le Seigneur a dit, aimez ceux qui vous maudissent. Aimez ceux qui vous persécutent. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Soyez vainqueurs du mal par le bien. C'est ça l'esprit de service. C'est ça l'esprit de service. Bien-aimé, quand tu es un employé, même si le patron a été impoli envers toi, est-ce que tu ne vas pas servir? Tu vas travailler. Ou alors tu démissionnes. Tu ne peux pas dire, je suis comptable, le PDG n'a pas été respectueux envers moi, je ne ferai pas la comptabilité de ce mois-ci. Les gens te diront, mais alors pourquoi tu es comptable? Dans ce cas, démissionne. C'est la même chose que nous. On ne peut pas sous prétexte que les autres sont mauvais, ne plus les servir. Parce que nous servons, parce que nous nous sommes engagés auprès de Dieu comme serviteurs de Dieu. Nous ne sommes pas engagés auprès des humains, c'est auprès de Dieu. Donc, ou alors nous démissionnons avec Dieu, c'est pourquoi Jésus a dit à Pierre, si c'est comme ça, tu démissionnes par rapport à moi. Ce n'est pas une raison. La méchanceté des autres ne doit pas nous empêcher de les servir. D'une manière ou d'une autre. Que ce soit dans la prière, que ce soit dans les cadeaux, que ce soit dans l'humilité, nous devons les servir. Nous nous sommes engagés auprès du Seigneur pour servir. Et servir et les bons et les mauvais. C'est ça notre engagement, bien-aimé. Et le Seigneur nous dirigera dans de quelle manière servir, mais nous, nous devons garder l'attitude des serviteurs. Donc même quand les bien-aimés n'ont pas été corrects, nous sommes leurs serviteurs. On n'a pas le choix. C'est ça notre engagement. Même quand des cousins, des cousines, des parents, mari, femme, n'ont pas été corrects, enfants, nous sommes leurs serviteurs. Jésus a dit, faites cela aux autres. Moi, je vous donne l'exemple pour que vous fassiez cela. Lavez les pieds, quelque chose qui était injuste quand Jésus le faisait, parce que lui, il était le maître, mais il l'a fait. Quelque chose qui était rabaissant, il l'a fait, bien-aimé. Un cousin, un oncle va mal parler de toi, et un jour, il se retrouve dans des difficultés graves. Le Saint-Esprit, s'il te demande de donner, donne. Il te demande d'aider, aide. Les gens diront, mais c'est anormal ce que tu fais. Non, tu es serviteur. Un serviteur est là pour servir. Voilà, bien-aimé. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui reste dans le gouvernement dire, je ne veux pas travailler parce que le président ne m'a pas donné un siège quand je suis entré dans son bureau. Non. On lui dira alors dans ce cas, démissionne. Si nous sommes dans le Seigneur, nous devons servir. Servir Dieu en servant les autres. Nous devons chercher à exaucer les attentes des autres. Ne pas revendiquer que les autres nous exaucent. Les patrons, ça va ensemble avec la revendication et les plaintes. Mais celui qui est serviteur est déjà comblé. Il pense à qu'est-ce que lui doit faire pour les autres. Donc il n'attend rien des autres. Donc il n'aura pas de problème avec les autres. Quel que soit leur comportement. Parce que lui, il pense à ce que lui doit faire pour eux. C'est ça, bien-aimé. Donc il n'aura pas de problème. Je sais que c'est un peu difficile ce que je dis là. Parce que les gens se disent, mais ils vont en profiter. Mais non. L'amour est très fort. Si on se comporte comme je le dis là, bien-aimé, conformément à la parole, l'amour de Dieu touchera les cœurs. Et les gens qui paraissent méchants vont se transformer en des agneaux. C'est ça la force de l'amour. Soyons serviteurs, bien-aimés. Oublions le côté patron. Quand je dis cela, je ne parle pas seulement des grands titres ou quoi que ce soit. Je parle de notre attitude. On peut être toujours aussi, on peut être un enfant, mais avoir une attitude de patron. On peut être sans fonction, mais avoir une attitude de patron en commençant à juger les autres. Il a mal fait ceci, il a mal fait cela. D'accord, il a mal fait. Bon, nous on va travailler. On va réparer ce qu'il a fait. Il a mal fait. On va lui expliquer qu'il a mal fait pour l'aider à mieux faire. Mais on ne va pas lui expliquer qu'il a mal fait parce qu'il ne nous a pas satisfaits. On va lui expliquer qu'il a mal fait pour l'aider lui à mieux faire. De sorte que quand il bosse, il produit des choses bonnes. Mais ce n'est pas parce que nous, on n'a pas été satisfaits. Moi, je suis pasteur. Combien de choses j'entends lorsque, en gérant les problèmes de couple, de famille, c'est toujours des revendications. Si on se mettait en position de serviteur ou de servante, les familles seront heureuses. C'est toujours. Il y a des gens, des femmes, quand tu les entends parler de leur mari, tu dis, ben, c'est le diable en personne. Mais bon. On se demande comment elle s'est trompée en épousant. Tu entends l'homme parler de la femme, tu dis, bon, ça y est, ça c'est fini, c'est une lionne transformée en. Mais après, quand tout se calme, c'est même toi le pasteur qui devient dangereux parce que c'est à cause de toi que le mari va venir à la prière, c'est à cause de toi que. Mais quand ça n'allait pas, c'était le diable vis-à-vis en personne. Maintenant, dès que ça marche, il te fouille carrément parce que il faut les laisser vivre leur 95e soleil de confiture, bien-aimé. Nous devons être serviteurs, bien-aimés. Serviteurs. Même dans le mariage, serviteurs. Tu n'es pas là pour réclamer, tu es là pour donner. Et Dieu utilisera l'autre pour te donner aussi. C'est ça la vérité, bien-aimé. Maintenant, je vois, les gens disent, oh, mais elle est assise, il est assis comme un patron, que je fasse tout. Oui. Oui. Parce que c'est comme ça que Dieu touchera son cœur. C'est écrit dans 1 Pierre 3. Même sans que tu parles, par tes actes, Dieu touchera son cœur. L'amour est plus puissant que la guerre. La guerre détruit, l'amour construit. C'est ça, bien-aimé. C'est très facile de détruire. Soyons serviteurs. Serviteurs, ça ne veut pas dire négliger la vérité. On dit la vérité et on compte sur Dieu pour agir. Et nous continuons à servir l'autre. On dit la vérité, on dénonce la fausseté, on dénonce le mensonge, on dénonce l'erreur, mais on continue à compter sur Dieu. Et à servir l'autre. On n'arrête pas notre service parce que l'autre n'est pas au point. Amen. La peur, bien-aimé, d'être trop sollicité, ça va aussi nous empêcher d'être serviteurs. On a tellement peur d'être trop sollicité et on fuit le service. Faisons confiance au Seigneur. Le Seigneur nous donnera la force pour le servir. Le Seigneur nous donnera la dose qu'il faut pour aimer les autres. Le Seigneur s'occupera de nous, bien-aimés. Vous savez, on dit souvent dans la parole, et c'est écrit plutôt dans la parole que David est l'homme selon le cœur de Dieu. Bien-aimés, c'est étonnant de voir que tout ce que Jésus donne comme conseil, David a presque déjà accompli ça. Vous savez, David, alors qu'il est encore jeune, on lui donne l'onction royale. En quelque sorte, dans la réalité, c'est lui qui est le roi. On le oint par Samuel. C'est Samuel qui avait oint le roi qui était en place, Saül. Alors, comment je peux vous montrer que c'était David qui était en réalité le roi? Même si le roi officiel, ce n'était pas lui. Quand il y a eu l'affaire de Goliath, le peuple d'Israël était en danger. Qui est venu libérer le peuple? C'est David. Donc c'était en quelque sorte lui le responsable du troupeau. C'était lui le responsable d'Israël. Mais ce n'était pas lui qui avait officiellement la royauté. Mais quand il a fallu prendre le danger, affronter le danger, protéger son peuple, qui s'est avancé? Est-ce que c'est Saül? Non. Saül était un patron dans son campement et c'est David qui est venu en serviteur affronter Goliath, risquer sa vie. Parce qu'il avait le cœur de serviteur. C'était lui le vrai roi. Un roi, c'est un serviteur. Après, il y a les avantages du roi parce qu'il doit faire son boulot comme il faut. Il doit être gardé. Ça, c'est lié à son boulot, mais ce n'est pas un honneur. C'est lié à son travail. Le roi ne doit pas songer, mais qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui? Mais donc il faut qu'il passe son temps à garder le troupeau, à gérer le pays. Donc, vous n'allez pas lui donner encore comme travail de faire la cuisine. Mais ce n'est pas un honneur. C'est juste qu'il faut le mettre en position de bien garder le troupeau. Et quand il faut prendre des risques, c'est lui. Même les païens le font. Dans un bateau, c'est le capitaine qui prend les derniers risques. David est venu en serviteur, affronter Goliath au risque de sa vie. Mais quand il a gagné, qui a profité de ça? C'est le roi. Le roi, c'était officiellement qui? Saül. Mais bien aimé, je me demande, est-ce qu'au milieu de nous, beaucoup auraient fait ça? On t'a ou un roi. Dieu dit que c'est toi le vrai roi. L'autre, il est là officiellement, mais c'est toi le vrai roi. Et c'est toi qui prends le risque de délivrer ton peuple. Mais après, c'est le grand roi, le roi plutôt officiel, qui en profite. Bien-aimé, c'est ça la vie. Nous devons accepter faire des choses parfois. Et c'est les autres qui vont dire c'est eux, ou bien qui vont en profiter. C'est pas grave. Ça, c'est laver les pieds. Donc, on fait une basse besogne, mais c'est ça qui produit la réussite de tout un groupe. Mais c'est quelqu'un d'autre qui se targue de l'avoir, d'avoir fait gagner le groupe. Ce n'est pas grave. Dieu voit. Amen. Dieu voit. David qui a pris tous ces risques-là, Saül le poursuit maintenant pour le tuer. Le roi officiel veut tuer le roi vrai, le roi réel. Et un jour, David se trouve en position de tuer Saül parce qu'ils étaient en poursuivant David. À un moment, lui, il s'est isolé de ses soldats, lui, le roi officiel, pour aller donc aller au sel ou aller aux toilettes. Et les soldats de David, il s'est risqué dans une caverne et il y avait David et ses soldats. David, les soldats de David disent à David, voilà, Dieu t'a livré ton ennemi. On va le tuer ici tranquillement. Il est seul. David leur a dit quoi? Je ne peux pas tuer loin de Dieu. Je ne peux pas tuer mon patron parce que officiellement c'est lui le patron. Je ne peux pas tuer le patron. Ou je fuis le patron, je démissionne, mais je ne peux pas toucher au patron. Je ne peux pas devenir patron alors qu'il y a quelqu'un d'autre qui est patron. Le patron, c'est Dieu. Et Dieu a décidé que cet homme-là reste toujours roi. Ce n'est pas moi d'en finir avec cela. Dieu a décidé que tu aies un papa. C'est ton papa. C'est Dieu qui l'a établi comme ton père. Il faut le respecter. Dieu a décidé que quelqu'un soit ton chef d'équipe, soit le président du pays, comme on a vu là des gens manquer de respect à tout un pays parce qu'il gagne 900 000 euros par mois. Des gens prennent en otage toute une équipe de football. Faire pleurer des aînés. C'est pourquoi il y a la malédiction dans le pays, bien-aimé. On ne touche pas à ce que Dieu a établi. Sinon, vaut mieux plutôt démissionner de Dieu. David a dit, je ne peux pas le toucher. C'est Dieu qui veut qu'il soit roi. Bon, il veut me tuer, j'arrive à fuir. C'est pas facile. J'en pleure, mais je ne peux pas tuer loin du Seigneur. Je ne peux pas gâcher l'ordre de Dieu. Je reste serviteur. Lui va rester le patron. Parce que c'est Dieu qui le veut ainsi. Amen. Ce n'est pas pour rien que Dieu appelle David l'homme selon son cœur. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. Jésus lui-même, bien-aimé. Deux voleurs à la croix. Tous les deux l'injurient, hein, au début, quand on lit un des évangiles. Jésus reste silencieux, calme. Il aurait pu dire, mais écoutez, vous parlez pour rien, attendez dans 3 jours. Non, serviteur jusqu'au bout. Vous savez, un serviteur n'entre pas en guerre contre les gens. Il les sert. Jésus n'est pas entré en guerre contre les humains. L'apôtre Paul a dit, nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais nous avons à combattre des esprits. Un vrai serviteur de Dieu n'entre pas en guerre contre des humains. Il peut dénoncer leur mauvais comportement. Surtout lorsqu'ils enseignent ce mauvais comportement comme étant le bon. Mais il n'est pas en guerre contre qui que ce soit. Il est là pour servir, prier pour ces gens qui sont mauvais, les bénir. Jésus est resté silencieux. Je crois dans son cœur, il devait prier pour ces deux voleurs-là. Et il y a eu le cœur d'un des voleurs qui a entendu l'amour de Dieu. Il a dit, Jésus, il a commencé à se repentir, il a dit, non, mon cher, on se trompe. Lui n'a rien fait. Nous, on était voleurs, mais lui n'a rien fait. Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Bien-aimé, quelle joie pour Jésus de sauver cet homme. Vous pensez que si Jésus avait injurié cet homme, et cet homme sera sauvé? Si Jésus avait menacé cet homme serait sauvé? Non. Jésus a préféré aimer cet homme en silence. C'est ça, bien-aimé. Veux-tu la gloire de Dieu? Sois serviteur. Et même cette gloire, ce n'est pas pour te glorifier toi, c'est pour que toi tu expérimentes Dieu dans sa grandeur. Arrêtons, bien-aimé, avec les plaintes. Arrêtons avec les revendications. Examinons ce que nous devons faire. Et pardonnons aux autres ce qu'ils font. Soyons serviteurs, bien-aimés, de nos enfants, serviteurs dans nos foyers, serviteurs des parents, serviteurs dans la société, pour montrer le parfum de bonne odeur de Jésus-Christ. C'est très important, bien-aimés. Et l'amour de Dieu agira. L'amour de Dieu est très puissant. N'entrons pas en conflit avec les humains. Lorsqu'il faut les éviter, vaut mieux éviter. N'entrons pas en conflit. Même si on dira on a fui, c'est pas grave. On n'est pas là pour être en conflit avec d'autres. On est là pour servir les autres. Comme le Seigneur l'a fait, laver les pieds. Même si on doit être abaissé, on doit accepter. C'est le chemin de notre maître. Jésus a dit, Pierre, si je ne te le fais pas, tu dois démissionner. Je ne suis plus avec toi. Le vrai chrétien, c'est celui qui imite le maître. Et aujourd'hui, nous avons voulu partager cette grande sagesse qui est d'entrer dans une posture de serviteur dans tous les domaines de notre vie. Toujours posture de serviteur. Qu'est-ce que moi je dois faire pour les autres et non pas ce que les autres doivent faire pour moi. C'est à moi de faire pour eux. C'est moi le serviteur. Que le Seigneur nous aide à prendre cette attitude, à sortir de l'accusation, à sortir de la condamnation, à sortir du jugement et entrer dans l'humilité et le service. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous voulons que tu nous donnes ta sagesse. Au nom de Jésus, nous refusons, Seigneur, de nous imposer sur les autres. Nous refusons de nous imposer sur toi, Seigneur. Ce que nous voulons, c'est être une aide efficace pour les autres. Ce n'est pas que nous rejetions l'autorité que nous pouvons avoir pour te servir, mais quelle que soit l'autorité, nous voulons l'utiliser dans un esprit de service. Nous voulons utiliser l'autorité pour aider les autres, pour fortifier les autres, pour les aimer et pour les encadrer. Même si nous avons des décisions parfois, des sanctions à prendre, Seigneur, quand on prend ces sanctions, que ça ne soit pas pour faire le patron, mais que ça soit pour édifier l'autre et l'amener à comprendre certaines choses, ô Éternel. Aide-nous, Seigneur, quel que soit notre rôle dans l'Église, quel que soit notre rôle dans le corps du Christ, à être serviteur, à prendre la posture des serviteurs et non la posture des patrons. Quelle que soit notre place dans une famille, à prendre la posture des serviteurs et non la posture des patrons. Et à chaque fois, Seigneur, nous croyons que tu nous donneras la pensée du service auquel tu nous attaches dans un milieu, que ce soit dans la famille, dans l'église ou ailleurs, tu nous donneras, tu nous diras ce que nous avons à faire. Oh Seigneur, mais que nous ne revendiquions pas pour accuser les autres, mais que nous soyons tournés vers toi, Seigneur Jésus, toi qui nous défends. Nous voulons imiter David, nous voulons t'imiter. Et nous croyons, comme tu as dit à David, que tu dresseras une table pour lui autour de ses ennemis. Nous croyons, comme Jésus l'a démontré, il est ressuscité le troisième jour. Ceux qu'il avait crucifiés ont même regretté. Ils ont corrompu des gens pour dire qu'il n'était pas ressuscité. Mais c'était trop tard, ô Seigneur. Oh, nous, nous voulons ta gloire. Nous ne voulons pas faire des choses charnellement. Nous voulons faire les choses avec ta gloire, Seigneur. Et nous voulons t'imiter afin que cette gloire se manifeste librement au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. J'entre dans tes portes.